Amy ne sait pas pourquoi elle se met dans ces états. Assistante dans une importante étude d'avocat, elle aime son métier et se passionne pour les affaires qu'on y traite. Un jour, en pénétrant dans son bureau, elle avise une petite note sur sa table de travail. « Amy, s'il vous plaît, je voudrais vous voir à 10h. Stu. » Le mot émane de Stuart Wayman, l'un des principaux associés du cabinet. Amy éprouve beaucoup de respect et d'admiration pour son patron, mais l'idée d'être convoquée dans son bureau la fait frissonner. « Que se passe-t-il ? » se demande-t-elle aussitôt. Entre 9 et 10 heures, elle est prise d'un accès d'overthinking chaotique. Pourquoi n'a-t-il pas précisé de quoi il veut me parler ? Habituellement, quand il veut me confier un travail de recherche, il m'envoie des instructions détaillées par email. J'ai mal au ventre. S'il m'annonce une mauvaise nouvelle, je vais éclater en sanglots. Comment vais-je retrouver un autre boulot ? Va-t-il me donner de bonnes références ? Comment vais-je annoncer ça à ma famille ? Ma sœur me tarabuste pour que j'intègre l'école de droit, pour que je devienne avocat. Elle n'a aucune idée de ce que ça représente. Elle ne m'a jamais vraiment écoutée, même quand on était enfant. J'ai la tête qui tourne. Je vais m'évanouir. Je vais passer pour une idiote. Si j'étais en meilleure condition physique, je saurais contrôler mon stress. Mais je suis trop paresseuse pour faire de la gym. Je ne supporte pas toutes ces filles minces en juste au corps. Je suis incapable de jouer le jeu. Voilà pourquoi je n'ai pas de vie sociale. À 10h, tremblant comme une feuille, Amy pénètre sur la pointe des pieds dans le bureau de Stu qui attaque gravement. « Amy, j'ai quelque chose à vous dire. Le procès de Chicago aura lieu dans un mois et j'ai l'intention de m'installer là-bas pendant toute la durée de l'affaire. Comme vous êtes la meilleure assistante de la société, j'aimerais que vous veniez avec moi. Cela me gêne de vous demander de vous absenter aussi longtemps. Qu'en pensez-vous ? Cela vous plairait-il de m'accompagner ? Nous vous indemniserons correctement, ne vous inquiétez pas. » Amy est tellement bouleversée, perdue, qu'elle n'est pas vraiment sûre d'avoir bien entendu. Serait-ce possible qu'elle se soit angoissée pour rien ? Incapable de se souvenir des paroles exactes prononcées par Stu, elle parvient à bégayer « Bien sûr, si vous voulez. » Quelques minutes plus tard, elle retourne dans son bureau, le dossier de Chicago sous le bras, et reprend aussitôt son overthinking chaotique. « Quelle idiote je fais ! Pourquoi suis-je aussi trouillarde ? Jamais je ne pourrais devenir avocate. Le moindre stress me rend malade. Pourquoi Stu m'a-t-il demandé de l'accompagner ? Il prétend que je suis une excellente assistante, mais peut-être a-t-il d'autres raisons ? Il paraît que son couple est en difficulté. Oh Seigneur, s'il me drague, jamais je ne m'en sortirai. Pourquoi me met-il dans cette situation ? Je lui en veux. Pourquoi suis-je aussi nulle ? Pourquoi est-ce que je me torture ainsi ? Overthinking et organisation cérébrale. Pourquoi, effectivement, nous laissons-nous aller à ces ruminations destructrices ? Une des explications est d'ordre biologique. En effet, le fonctionnement et l'organisation du cerveau facilitent la rumination. Tous nos souvenirs ou pensées sont inextricablement liés les uns aux autres, regroupés dans des réseaux complexes. Un nœud ou un réseau concerne par exemple votre famille. Un autre, votre travail ou votre apparence. La plupart de ces nœuds sont reliés entre eux. C'est ce qu'on pourrait appeler les associations d'idées. Ainsi, en songeant à vos parents, vous pouvez brusquement penser à vos problèmes de poids, soit parce qu'il s'agit d'une question récurrente dans votre famille, soit parce que votre mère s'est toujours moquée de vos rondeurs. De la même façon, réfléchir à votre travail peut entraîner chez vous des interrogations sur vos enfants, parce que vous vous sentez coupable de les négliger au profit de votre vie professionnelle. Il arrive qu'on ne soit pas conscient de ces connexions, que deux domaines qui n'ont a priori rien à voir entre eux soient reliés parce qu'ils concernent l'image que vous avez de vous-même. Exemple, vous ratez un entretien professionnel et vous vous surprenez à vous juger trop grosse. Le psychologue Gordon Bower, de l'Université de Stanford, a démontré il y a une vingtaine d'années que nos réseaux de pensée sont également liés à nos humeurs et nos émotions. Chaque événement vécu nous procure des sentiments positifs ou négatifs, joie, fierté, honte, tristesse. Les situations qui les ont déclenchées ont tendance à se regrouper dans un même et unique réseau de souvenirs. Résultat, quand vous êtes de mauvaise humeur, triste, anxieuse ou simplement bouleversée, vous déclenchez inconsciemment une cascade de pensées associées à votre état d'esprit du moment, sans qu'elles aient forcément un rapport avec l'incident qui vous a frappé. C'est ainsi, par exemple, qu'un mauvais bilan professionnel vous fera songer à votre tante, morte l'an dernier. Cette organisation complexe du cerveau, réseau interconnecté de pensées, souvenirs et sentiments, augmente considérablement notre capacité de réflexion. C'est grâce à elle que nous sommes capables d'établir des similitudes entre plusieurs situations, des liens entre différents sujets. Cependant, et c'est le danger, elle facilite également fortement nos tendances à la rumination. Un événement bouleversant a la capacité d'activer, littéralement d'éclairer, les réseaux de souvenirs négatifs enfouis dans notre cerveau et de modifier notre mode de pensée. Il nous les rend accessibles et leur permet d'entrer dans notre champ de conscience. Comme Amy, l'assistante juridique rencontrée plus tôt, qui établissait des liens entre sa peur d'être licenciée, l'attitude de sa sœur, son dégoût de la gym et ses problèmes de vie sociale, nous sommes alors soumis à des cascades de préoccupations qui nous paraissent logiques. Mais je tiens à répéter que cette capacité de sauter d'une inquiétude à une autre provient essentiellement d'un événement qui, en nous perturbant, actionne les réseaux négatifs enfouis dans notre cerveau. Malheureusement, c'est là que le cercle vicieux commence. Car plus nous sombrons fréquemment dans l'overthinking, plus ce dernier se renforce. Ruminer à la suite d'une émotion bouleversante stimule nos réseaux de pensée ou souvenirs négatifs, resserrant les liens entre eux. À chaque nouvel accès, ces nœuds s'activent encore plus vite que la fois précédente. De plus en plus consciente de tous vos problèmes, vous les ressassez avec davantage de fascination. Ce dernier point a été démontré par une importante étude menée par les psychologues Jeanne Miranda de l'Université de Georgetown et Jacqueline Persons du Centre de thérapie cognitive de la San Francisco Bay Area. L'expérience consistait à faire lire à un panel de femmes des phrases du genre « Je me sens triste et fatiguée » et « Je me sens déprimée », tandis qu'un autre lisait un texte léger et gai. Puis, au moyen d'un questionnaire, on a vérifié comment elle se sentait. Bien évidemment, le premier groupe était plus négatif dans sa façon de penser. Mais, plus important, on s'est aperçu que la tristesse provoquait davantage de sentiments négatifs chez les femmes qui avaient déjà vécu un épisode dépressif. En d'autres termes, leur réseau de pensées et de souvenirs négatifs était plus facilement activé par une plongée dans la mélancolie. Comment expliquer que certaines d'entre nous aient plus tendance à tomber dans l'overthinking que les autres? Les recherches sur le cerveau commencent peu à peu à nous fournir des réponses. Le psychologue Richard Davidson de l'Université de Wisconsin a exploré longuement ce qu'il appelle la neuroscience affective, les différentes façons dont le cerveau traite les émotions. Grâce à une technologie sophistiquée d'imagerie médicale, il s'est aperçu que les émotions négatives activait davantage le côté droit d'une partie du cerveau, appelé cortex préfrontal, que le côté gauche. Le cortex préfrontal sert à la régulation des émotions, nos capacités conscientes et automatiques de les filtrer et de les contrôler. Un dysfonctionnement du cortex préfrontal peut donc conduire à une mauvaise régulation émotionnelle, exemple, l'overthinking ou la tendance à la dépression. Deux autres parties du cerveau, l'amygdale et l'hippocampe, sièges de l'apprentissage et de la mémoire des situations émotionnelles, sont parfois détériorés chez les gens enclins à la dépression et à la rumination. En particulier, une amygdale hyperactive peut nous conduire à être trop sensible, à capter aisément les informations négatives. Au cours de la prochaine décennie, les recherches de scientifiques tels que Davidson nous fourniront peut-être d'importants indices sur les causes de l'overthinking. Mais les différentes études que j'ai menées me suggèrent que la tendance à la rumination négative n'est peut-être pas simplement le résultat d'un dysfonctionnement cérébral, mais également d'importants bouleversements culturels dans notre histoire. Une génération d'overthinkers. L'overthinking touche avant tout les jeunes générations. Dans mon enquête menée auprès de 1300 personnes choisies au hasard, voire chapitre 1, 63% des jeunes adultes et 52% des gens d'âge moyen pouvaient être considérés comme des overthinkers.